Avec nous. Donc, je propose qu'on démarre avec le premier axe qui est transition écologique inclusive. Nos intervenants seront Nathalie Bassalaire, qui va être membre de Hashtag le plus important et responsable directrice de la communication et des affaires publiques de l'association. On la remercie. Cet événement aussi est grâce à son travail, qui va donc avoir deux intervenants, Madame Bettina Laville et Monsieur Yann Fradin. Donc, n'hésitez pas à revenir à côté de moi. Voilà, il y a de la place. Et je propose aussi, pendant que le panel monte sur scène, de vous connecter. Je vais le faire, voilà. De vous connecter sur... On est plusieurs à avoir la zapette, je crois. Voilà, je vous propose aussi en même temps, pendant que tout le monde s'installe, de vous connecter. Oui, si on est plusieurs sur la zapette. Voilà, vous avez accès donc pour voter. Voici le lien. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont dans l'hémicycle, à vous connecter avec le QR code qui s'affiche. Pour ceux qui sont sur Zoom, je pense que le lien vous est transféré. Donc, n'hésitez pas aussi à vous connecter. Les propositions vont être données par Nathalie Bassalaire, qui va démarrer. Et puis, pendant le débat, on reviendra vers vous pour avoir vos retours. Merci.
Merci beaucoup, Sabine. La zapette, super. Alors, donc, je vais restituer un petit peu les premiers éléments sur la transition écologique. Pour commencer, quelques premiers messages clés. On sait qu'avec la transition écologique, en fait, il y aura peu de nouveaux métiers de créer. En revanche, les compétences de nombreux métiers sont amenées à évoluer. On pense à celles qui impactent le cœur de métiers historiques sur l'agroécologie ou sur le bâtiment, qu'on pense aussi aux besoins de compétences, de coordination dans certaines filières, je pense au bâtiment, ou même de coordination entre métiers pour l'éco-conception dans l'industrie. Pour autant, certaines filières de la transition écologique sont en pénurie de main-d'œuvre et sont confrontées à des problèmes de métiers industriels en tension. Et ce manque de disponibilité de compétences est de nature à freiner de manière assez significative le développement de certaines filières. Je pense en particulier à la filière des énergies renouvelables. Troisième élément de constat, c'est que globalement, les estimations montrent que la transition écologique est potentiellement destructrice d'emplois dans les activités qui sont basées sur les énergies fossiles ou qui sont consommatrices de CO2. On sait que pour fabriquer un moteur électrique, il faut 60% de main-d'œuvre de moins qu'un moteur diesel. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces compétences et ces savoir-faire? Et bien, en fait, ces compétences et ces savoir-faire, ils sont utiles, par exemple, pour préparer demain le développement de la filière de l'électromobilité qui promet quelques 15 000 emplois dans les batteries, par exemple. Donc, un des premiers éléments de la transition écologique inclusive, c'est effectivement celle qui va permettre de sécuriser les parcours professionnels de ceux qui vont être frappés par un certain nombre de ces mutations. Mais la transition écologique, c'est aussi, et les chiffres le montrent, une formidable opportunité de création d'emplois, près d'un million à l'horizon des 10-15 prochaines années, qui peuvent être effectivement autant d'opportunités pour les jeunes, pour ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, pour peu effectivement qu'on investisse assez massivement dans les compétences. Et c'est ce qui rend la dimension sociale de la transition écologique absolument essentielle. pour pouvoir effectivement répondre à la fois aux enjeux croisés de cette transition et du développement économique, des enjeux d'inclusion sociale et des enjeux de cohésion sociale et territoriale. Mais pour ça, on a besoin d'avoir une bonne connaissance, en tout cas des outils, des éléments d'analyse qui nous permettent d'appréhender les évolutions, les impacts en termes d'emploi, les besoins en compétences, les besoins en formation qui vont en découler, et force est de constater en particulier que les impacts territoriaux de la transition écologique sont aujourd'hui mal documentés, même si des outils, en particulier des outils de quantification, commencent à se développer et sont utiles à la décision. Enfin, dernier point, la transition écologique, elle nous amène à appréhender, je dirais, les phénomènes de manière différente, de manière à appréhender plutôt le territoire comme un métabolisme, avec des flux, avec des ressources, avec ses interdépendances. Mais elle nous amène aussi à agir autrement, davantage en coopération pour avoir un chaînage d'intervention qui soit continu entre les acteurs de l'emploi, entre ceux de l'insertion, entre ceux du développement économique, qu'ils soient d'ailleurs public ou qu'il soit privé. Elle nous invite également à au plus tôt, je dirais, des évolutions par anticipation, à mettre en place un dialogue social territorialisé, qui est un élément, un levier important de cette transition écologique inclusive. Et puis, elle nous invite aussi à pouvoir mettre en place des gouvernances multi-acteurs pour piloter les différents domaines de la transition écologique. Et dernier point, il nous faut toujours un pilote dans l'avion, donc il nous faut des acteurs qui, aux bonnes échelles, soient des ensembliers. Et c'est pour ça qu'une de nos premières propositions, c'est la mise en place d'un Conseil national de la transition écologique inclusive qui jouerait entre les différentes instances, et je sais que Gilles de Marguerie, pour l'avoir accueilli, est dans la salle, que les différentes instances, que ce soit France Stratégie, que ce soit France Compétences, que ce soit l'ADEME, l'ONEMEL, je ne vais pas toutes les citer, mais on a besoin d'un acteur qui soit un coordonnateur, qui puisse piloter, qui puisse anticiper, enfin commander les travaux d'anticipation, les éléments d'impact, qui puissent coordonner les initiatives et qui puissent aussi veiller à ce que la transition écologique prenne en compte ces enjeux socio-économiques et en particulier la dimension de l'emploi. Deuxième proposition, mobiliser les fonds existants, que ce soit les fonds français, je pense au fonds d'investissement Avenir, à ceux liés à France 2030, à ceux de BPI, de l'ADEME. Voilà, il y a de nombreux fonds qui viennent en soutien de la transition écologique. Il y a également un fonds auquel on ne pense pas forcément, qui est le fonds européen de la transition juste. Eh bien, ces fonds, il faut les mobiliser massivement, mais leur affecter, les assortir d'un critère qui soit celui de l'inclusion dans l'emploi pour faire qu'effectivement cette transition économique soit aussi une transition sociale réussie. Troisième proposition, que je ne vois pas d'aussi loin, inscrire la transition écologique inclusive comme un axe prioritaire du PIC, du plan d'investissement dans les compétences, et de France 2030. Et on a besoin d'un plan de formation aux métiers, aux compétences liées à cette transition écologique inclusive qui va cibler les travailleurs peu qualifiés, qui va cibler ceux qui vont être les plus fragilisés par les mutations économiques et en particulier par la décarbonisation ou la décarbonation de notre économie. Et puis, il va falloir associer tout ça à une large campagne de promotion de ces métiers pour les rendre davantage attractifs. Quatrième proposition, je le disais, besoin de connaissances, on a besoin de développer donc des méthodes, des outils qui permettent de documenter pas seulement les impacts, mais aussi les opportunités d'emploi dans de nouvelles filières sur les territoires, au plus près des territoires. Et on en a besoin sur 4, 5, 10 ans. On en a besoin, bien évidemment, d'avoir des éclairages plus long terme, à 10 ou 15 ans, et des outils qui nous permettent aussi de regarder comment on peut relocaliser un certain nombre d'activités en mesurant tout simplement les fuites de la demande locale, donc en fait des biens et services, une demande de biens et services qui s'exerce à l'international et qui pourrait potentiellement être réintroduite sur le territoire en lien bien évidemment avec les filières de la transition écologique. Proposition suivante, l'État a mis en place un outil très intéressant, le contrat de relance et de transition écologique. Pour autant, pour en avoir regardé quelques-uns, nous sommes amenés à faire la proposition, c'est de le faire évoluer. Le faire évoluer, d'une part, vers un contrat d'objectifs, c'est-à-dire on s'engage à tenir un certain nombre d'objectifs, et en particulier des objectifs d'inclusion dans l'emploi, et avoir des ambitions en matière de décarbonation et de développement des filières de l'économie verte, et de pouvoir assortir une sorte de système de bonification pour les bons élèves qui permettraient effectivement de mettre en place cette transition inclusive et dans le temps, puisqu'on propose que ces contrats soient non pas d'une durée de 6 ans, mais qu'ils soient renouvelables. Enfin, il convient également d'accélérer la transition sociale et écologique par les coopérations urbaines-rurales qui sont porteuses d'emplois dans nos territoires, d'emplois non délocalisables. Je ne vous ferai pas un long développement sur les interdépendances et les relations qui se tissent, les complémentarités entre nos territoires urbains et nos territoires ruraux, mais si je prends l'exemple du biométhane, on verra bien comment dans les territoires ruraux, il peut permettre un développement de l'activité agricole autour de la transition agroécologique, et on voit bien du côté des villes comment elles sont gagnantes aussi par la prise en compte du traitement des déchets et d'une source d'énergie bas carbone. Donc voilà, il faut travailler sur ces éléments-là. Il y a des outils, on peut utiliser parce qu'il faut créer de la confiance entre les acteurs. Favoriser également l'inclusion des personnes en développant une politique locale de l'emploi qui soit tournée vers la transition écologique du territoire à dimension sociale. Alors, on a fait plusieurs propositions, vous aurez l'occasion de voter sur celles-ci, que ce soit d'orienter davantage les expérimentations de territoires zéro chômage de longue durée vers la transition écologique, ou d'affecter davantage des fonds, qu'ils soient départementaux ou régionaux, à cette dimension sociale de la transition écologique. Bettina, je vous laisse réagir.
Каждый день мир и никогда война. J'ai la chance de parler un peu ukrainien et j'ai décidé tout ce que durerait cette guerre de commencer toutes mes interventions par un mot en ukrainien.
Mais
tous les jours la paix et jamais la guerre. Voilà la traduction, je vous rassure, je vais continuer en français. Je vous remercie d'abord, je suis très honorée d'être marraine de cet événement que je trouve très passionnant. Ça fait un certain nombre d'années que je m'occupe de développement durable et de transition, et vous avez raison, ce qu'on appelait il y a 30 ans, puisqu'on va fêter cette année le 30e anniversaire de la conférence de Rio, le volet social du développement durable et donc le volet d'emploi, de l'inclusion. Vous savez, on a utilisé à peu près tous les mots depuis 30 ans pour reculer ce qu'on devait faire. Mais là, au moins, on est avec vous dans des choses concrètes et ça me paraît tout à fait intéressant. Et donc, je me réjouis beaucoup de ce travail. Alors, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que dans une des premières tables rondes auxquelles j'ai assisté il y a 15 jours, je crois à peu près, on a beaucoup parlé d'emploi et on a beaucoup parlé, j'ai essayé de mettre en lumière quelque chose qui me paraît absolument fondamental dans tout ce que nous vivons en ce moment, c'est l'adaptation. Que ce soit l'adaptation évidemment au changement climatique, que ce soit l'adaptation aux nouvelles conditions de vie, et que ce soit évidemment qui nous attendent, qui commencent et qui nous attendent. Et aussi sur quoi je voudrais insister, c'est l'extraordinaire inadéquation entre ce qui nous attend, je ne suis pas du tout apocalyptique moi, mais tous les rapports le montrent et maintenant la réalité le montre. Vous allez avoir lundi à midi exactement la parution du GIEC sur l'adaptation. Il se trouve que j'avais ce matin pour d'autres choses Valérie Masson-Delmotte et ce rapport va être très secouant, je veux dire. Nous ne sommes absolument pas au point sur l'adaptation. L'ensemble du monde est extrêmement en retard. C'est la première année à la conférence de Glasgow que nous avons eu finalement une espèce d'équilibre entre les actions et la présentation d'actions et de mesures sur l'adaptation et sur l'atténuation. Mais c'est la première année. L'adaptation a toujours été un sujet qui n'était pas important. Et surtout, il y avait une espèce de méfiance qui faisait que si on se mettait à parler d'adaptation, ça veut dire qu'on acceptait le changement climatique. Pas du tout, puisque l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Donc, voilà. Et donc, si vous voulez, ce qui est très, très important et ce qui sous-tend, en fait, vos travaux, c'est que nous devons adapter et adapter les hommes et le travail et l'inclusion aux nouvelles conditions qui nous attendent. C'est pour ça que par exemple, nous, au comité 21, quand on a fait des propositions de notre rapport sur la grande transformation, on avait proposé, c'était le moment où on parlait encore, et puis après il y a eu la pandémie, mais enfin on en parle. Si on arrive à parler de quelque chose pendant cette campagne présidentielle, on en parle, on va en parler, c'est le revenu minimum, etc. Et nous, en fait, on promeut quelque chose que je trouve très, très significatif par rapport justement au lien environnemental-social, c'est un revenu vital, en l'occurrence, parce, pourquoi ? C'est un revenu minimum vital, si vous voulez. Tout simplement parce qu'il y a évidemment de grandes inégalités dans ce pays, et c'est pour ça qu'il faut un revenu minimum, mais il y a aussi de grandes inégalités environnementales. Nous sortons nos propositions au comité 21 également lundi prochain et nous prenons cette cause d'inégalité environnementale et on propose même que ça soit une grande cause parce que finalement, quand vous aurez dépassé un certain nombre d'inégalités, on l'espère tous, en matière de mesures, en matière de salaire, en matière, je dirais, de revenus minimum, de subsistance en l'occurrence, les personnes qui le toucheront, s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas d'appui, iront, et on le voit bien dans l'alimentation par exemple, vers des produits qui ne sont pas toujours de qualité et qui ne sont ni bons pour eux ni pour la planète. Et c'est une inégalité profonde tout simplement parce que ça les sépare en l'occurrence des efforts qu'on peut faire pour le bien de la planète et c'est une exclusion finalement subtile mais réelle. Voilà. Et du coup, ils se révoltent forcément, c'est tout à fait normal, contre les mesures de la transformation, ben vous voyez bien à quoi je fais allusion. Donc, si vous voulez, ça, c'est vraiment l'adaptation me paraît être au cœur de tout cela. La deuxième, ce sur quoi aussi je voudrais insister, et ça va m'amener à votre première proposition, qui est la seule que je me permettrais de contester, c'est en l'occurrence la planification. Vous savez, il y a 15 ans maintenant à peu près, l'administration du plan a été remplacée par une administration dont je salue évidemment le directeur général ici, d'autant que je le connais bien, et qui finalement s'appelle France Stratégie. Et c'était vraiment une décision de ne pas faire planification. Et je suis pas du tout étonnée que la planification revienne dans énormément de propositions, d'ailleurs sur tous les échiquiers politiques aujourd'hui, tout simplement parce qu'on fait de la planification en dehors d'un grand plan national aujourd'hui. Je veux dire par là, on fait beaucoup de trajectoires, on fait des trajectoires de décarbonation, on fait des trajectoires contre la biodiversité, contre la perte de biodiversité, on fait des trajectoires avec des plans d'adaptation, on fait des trajectoires bas carbone, etc. Mais comme on a supprimé le plan, On n'en fait aucune globale. Et c'est ça qui est demandé, et je prône moi cela de façon effectivement très très forte. Et du coup, pourquoi je me permets, alors que je suis tout à fait d'accord avec les autres, de contester la première proposition, parce que je crois qu'il faut la remplacer peut-être, si vous me permettez, par une proposition un peu plus forte, qui est un plan pour l'inclusion écologique, etc. C'est-à-dire, en fait, faire. Alors, il y a quelqu'un qui vient de le faire, c'est The Shift Project, hein, qui a pris tous les secteurs et qui s'est demandé comment on faisait pour transformer tous les secteurs de l'économie par rapport à la nécessaire décarbonation. Mais justement, ils oublient complètement, enfin, il y a une toute petite partie sur les métiers. Et ils oublient en fait deux choses qui sont très importantes et qui bloquent aujourd'hui la transition, c'est le double facteur humain. Le facteur humain en matière de formation et le facteur humain en matière d'acceptabilité. Et tant qu'on n'aura pas rajouté à la transformation des secteurs, ça autrefois le plan le faisait, évidemment pas sur la transformation, puisque à cette époque-là, on n'avait pas compris. Alors France Stratégie publie, et on l'en remercie, des documents tout à fait intéressants, il a fait toutes sortes de travail là-dessus, mais ce n'est pas à France Stratégie que ça se passe, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'ensemble du pays soit axé sur cette transformation. Alors, comme je vois les yeux de cette charmante personne s'écarquiller légèrement et que je prends ça pour un signe qui veut dire accélérer, je vais accélérer. En revanche, je trouve que toutes les autres propositions sont tout à fait intéressantes. La mission du Haut Conseil pour le climat, l'évaluation, c'est vraiment pas fait pour ça, hein, le Haut Conseil pour le climat. C'est un organisme scientifique, il faut quand même bien le dire, et qui effectivement met des warnings sur les politiques publiques. Mais en revanche, je crois encore une fois que je me permets de remplacer, de mettre sur la table cette proposition. Voilà. Et d'autre part, je trouve, pour reprendre ce qu'a dit monsieur l'administrateur du CNAM, je crois que le niveau local est un excellent niveau. Et justement, aujourd'hui, vous avez ce retournement, c'est qu'au niveau régional, avec les SRADET, avec tous les plans sur l'adaptation, avec les plans de lutte contre la pauvreté, etc., vous avez une planification, vous avez, en l'occurrence, ce que j'appelle moi des trajectoires, plutôt, parce que comme nous sommes, c'est très difficile hein, de planifier dans un monde incertain. Donc, nous avons plutôt des trajectoires, et justement, c'est beaucoup plus actif au niveau régional qu'au niveau national. Et donc, aujourd'hui, on voit parfaitement que l'échelon d'innovation, il est passé aujourd'hui dans les territoires. Vous savez, il y a 30 ans, on disait du global au local et du local au global. Maintenant, on en est vraiment, en l'occurrence, du local au global. C'est pour ça que toutes les propositions, et particulièrement, j'aime beaucoup celle de transformation du CRTE à la fin, sont très, très utiles parce qu'on voit qu'il y a une volonté de changement très, très importante au niveau des territoires. Ce sont les territoires qui se rendent compte aujourd'hui des changements climatiques, des bouleversements climatiques, mais ce sont aussi les territoires qui résistent aux changements globaux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de passerelle entre les deux. Pardon d'avoir été un peu longue.
Donc Yann Tranin, donc Emmaüs France, et on a été partenaires notamment de l'atelier avec Nathalie Bernard, avec Mathias, Pascal Flamand également, sur l'atelier de transition, sur la transition écologique inclusive au niveau d'Emmaüs France. Et on en est particulièrement content. On a pu faire un bon boulot, juste Emmaüs France. Hein, aujourd'hui, c'est 30 000 personnes hein, au quotidien qui travaillent en France dans nos groupes, que ce soit des compagnes et compagnons, des salariés d'insertion, des permanents, des bénévoles. Donc, à peu près la moitié sont salariés ou en activité rémunérée. Tout ça réparti en 300 groupes, essentiellement sur les questions du réemploi, hein, du textile, du réemploi. Vous connaissez tous, tout le monde connaît les boutiques Emmaüs, les communautés Emmaüs, mais également de plus en plus sur un centre d'autres métiers qui sont un peu moins connus, notamment sur l'agriculture. On se développe beaucoup en ce moment, biologique évidemment, inclusive évidemment, notamment avec des personnes en aménagement de peine. Donc c'est un centre de choses qu'on développe de ce type-là. Donc sur les propositions, alors en rebondissant sur Bénédicte à la ville, je voulais qu'effectivement aussi qu'on ait évidemment plus qu'une pensée, une obligation d'agir vis-à-vis de nos amis ukrainiennes et ukrainiens. Et donc Emmaüs, on a trois groupes en Ukraine aujourd'hui, on a trois donc structures qui vont sans doute subir de graves dommages, et donc on sera évidemment encore plus que jamais à leur soutien. Et effectivement, c'est vraiment un enjeu majeur pour la démocratie qui nous est posé aujourd'hui et à nous toutes et tous. Donc, effectivement, la société civile est importante, et on le voit justement dans des crises comme ça, où elle n'est jamais assez importante, et je vais y revenir dans les réactions propositions. Alors, les propositions, notamment sur les questions territoriales, nous semblent effectivement, vous l'avez dit, très, très importantes et fortes, mais attention aussi, puisque souvent les collectivités sont bridées, mais vraiment bridées, par le carcan. Souvent, on dit le carcan européen, mais la plupart du temps, c'est quand même plutôt le carcan national. C'est la manière dont la France interprète les directives européennes, où en général, c'est toujours restrictif, en tout cas, sur l'économie sociale et solidaire. C'est jamais progressif, c'est jamais ambitieux, c'est toujours beaucoup moins et beaucoup toujours moins, ou en tout cas toujours plus cadré administrativement. Donc là, on a un enjeu majeur de ce point de vue-là et qui bloque évidemment beaucoup de choses. Notamment donc et il est évoqué dans la proposition 42 donc sur la transition écologique des territoires effectivement et la 43 sur les territoires ruraux ou les territoires politiques de la ville qui effectivement sont des zones souvent qualifiées de zones blanches en termes d'action publique ou en tout cas grises et donc il faut renforcer et là où on a beaucoup à faire. Pour ce qui est de l'emploi, le deuxième grand volet, je dirais, de ce sujet, de notre sujet, c'est la question de l'emploi. Effectivement, il y a peut-être peu de métiers, mais il y a beaucoup d'emplois. Et surtout avec des coups de barre qui vont être de plus en plus forts, voire de plus en plus violents. Aujourd'hui, on le voit bien, l'industrie automobile dégringole totalement et l'industrie du vélo monte, sauf qu'on n'a personne pour réparer des vélos, on n'a personne pour réparer des voitures, mais on a du monde pour construire des voitures neuves. Donc on voit bien les embardés qu'il y a et qu'il faut anticiper, et il faut vraiment les anticiper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus, il faut commander pratiquement 3 mois avant un rendez-vous chez son réparateur de vélo pour pouvoir réparer son vélo. Donc je veux dire, on est vraiment dans des choses très concrètes et très pratiques. Je ne parle même pas d'acheter un vélo, où ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on voit bien qu'on a des embardées très fortes, et ce n'est que le début, et ça va être assez général de ce point de vue-là. Et donc, dans cette transition, l'économie sociale et solidaire est vraiment fondamentale, puisqu'elle va amener des gens de façon soft, de façon lente mais méthodique, à revenir vers ces métiers-là. C'est souvent des personnes qui ont vécu ça, qui connaissent. Par exemple, quand on a des personnes aujourd'hui exilées, réfugiées en France, qui roulent toujours à vélo dans leur pays, bah évidemment, quand elles arrivent en France, elles savent faire du vélo. Aujourd'hui, on leur interdit de travailler. Donc, je veux dire, on est dans un système un peu complètement fou, où on n'a pas d'emploi, mais de l'autre côté, on interdit à des gens de travailler, etc., sur des prétextes un peu alambiqués, voire très alambiqués. Donc, vraiment, là, on a des enjeux majeurs. Et pour cette question, ensuite, donc, c'est les conditions de développement de ces emplois et de cette économie. Comment on fait pour aller vers cette transition? Et de ce point de vue-là, il y a une proposition qui à la fois nous va, mais qu'il faut revoir complètement, c'est qu'il faut qu'on anticipe. C'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, elle anticipe, elle est là. On faisait déjà des ateliers de réparation vélo il y a 10-20 ans. On fait du réemploi au moment où la loi seulement AGEC se met en place, etc. Et alors, ça fait 70 ans qu'elles ont fait du réemploi. Sauf que de l'autre côté, et d'ailleurs très, très, très amicalement, je dirais, la proposition 20B nous dit de réserver 5 à 10%. Non, mais on croit rêver. 5 à 10%. Moi, je proposerais l'inverse. C'est-à-dire dans le textile, on fait 50% aujourd'hui. Emmaüs seulement, c'est 50% du textile en France, de réemploi du textile. Or, aujourd'hui, on va vous dire, on va faire du 5 à 10%, c'est la réalité. Et 5 à 10% dans les appels d'offres. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, on est jeté, donc on tombe à 2-3%. Donc, là-dessus, il faut renverser. Il y a des secteurs où il faut mettre 5 à 10% pour l'économie lucrative. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas l'inverse. Donc, par exemple, pour les maisons de retraite, on voit dans quel biais ça nous a emmenés. C'est-à-dire, petit à petit, on a tout privatisé et on voit vers où ça a été. Donc, ce qui ne veut pas dire que l'économie privée n'est pas forcément les endroits où elle est très légitime, elle existe. On prend l'automobile, elle fonctionne très bien, etc. Mais de l'autre côté, il faut qu'on inverse les choses. Et de ce point de vue-là, il faut qu'on arrive à structurer vraiment nos propositions et notre économie. Donc, il faut des marchés réservés, il faut des marchés qui consolident, qui augmente l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, c'est 10%. Donc, toutes les clauses sociales, si on veut le développer, elles doivent être les clauses sociales et marchés réservés à 20% de l'ensemble, si on veut le développer, sachant qu'on ne gagne pas tous les coûts, etc., etc. Donc, voilà un peu les petites propositions qu'on pourrait dégager par rapport à cet ensemble de choses.
Merci beaucoup, M. Fradin. Nos intervenants, merci Madame Laville, merci Nathalie Bassalaire. Je vous propose d'avancer sur le deuxième axe.